Voilà, donc c'est vrai que c'était un exercice difficile et qu'on a commencé ces deux jours avec, par des questions de vocabulaire. Alors j'avais envie de reprendre moi aussi un petit peu la question des mots avec l'histoire du grand témoin. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un témoin, effectivement, parce que c'est ni un métier, ni une profession, mais c'est un travail. Ça, je peux vous assurer que c'est un travail.
La preuve, c'est que ça fatigue.
Voilà, et une activité aussi. Et d'ailleurs, j'avais bien noté, comme Philippe Astier l'a dit ce matin, que le mot travail n'avait pas du tout été utilisé hier.
Le premier jour.
Ça, c'était vraiment extrêmement intéressant. Mais bon, j'avais lu le programme, comme vous, et j'avais vu qu'il viendrait aujourd'hui, puisqu'il était dans les titres des interventions, donc c'était évident. Alors, un témoin, c'est quelqu'un qui témoigne, qui atteste ou qui peut attester de la vérité d'un fait. Bon. Par extension, c'est effectivement un spectateur, quelqu'un qui assiste à un événement. Donc effectivement, si je peux pas du tout attester de la vérité de quoi que ce soit, je peux bien dire que j'ai été spectatrice et je vais vous donner mon point de vue de spectatrice. Alors, petit détail anecdotique, juste pour se détendre un petit peu parce que c'est la fin. Dans le Furetière, donc, hein, ce dictionnaire du 17e que j'avais consulté pour la question du témoin, bien sûr, on nous dit qu'on punissait de mort les faux témoignages. Alors, j'espère que je risque pas ma vie, là. Et puis, surtout, qu'il fallait 72 témoins pour condamner un évêque. Voilà.
Oh, alors, les gens qui sont venus ont un grade, à mon avis, supérieur à celui d'évêque.
Voilà, donc
aujourd'hui.
C'est la question que je me suis posée. Il n'y a pas d'évêque parmi nous, mais est-ce qu'il y a des équivalents? J'en sais rien. Mais de toute
certainement,
façon.
Certainement, PU, à mon avis, c'est largement équivalent.
Mais il n'y a pas 72 témoins, donc ça va. Il n'y a pas de traces, de problème. Donc, justement, je vais vous livrer mon témoignage à moi, et qui finalement est la trace de mon activité. Dans le sens qui a été évoqué ce matin, c'est la trace de mon activité cognitive et langagière. Donc j'ai écouté, j'ai noté, j'ai relu, j'ai choisi, j'ai sélectionné, j'ai classé. Enfin, j'ai fait plein d'activités comme ça et j'ai réécrit. Et maintenant, je vous parle. Alors, mon témoignage, donc, c'est pas du tout une vérité, etc. Hein, c'est... Il y a justement aussi, c'est ce qui a été dit ce matin, un écart entre ce que j'ai vu... Et ce que j'ai entendu et ce que je vais vous en dire. Et c'est vrai que dans cet écart-là, c'est sûr que moi, j'ai appris des choses. Moi, je me suis formée. Peut-être que vous aussi, un petit peu, ça va vous apporter quelque chose et vous aider à vous former. J'en sais rien. Je voudrais pas, justement, c'est pas une intervention supplémentaire, hein, ce que je suis en train de faire, mais vous livrer un petit peu tout cela. Donc j'ai écouté tout ça avec un filtre qui est surtout le filtre de mon histoire professionnelle et de mon activité actuelle et qui est donc, comme disait Anne-Marie, un travail au centre Alain Savary où on s'intéresse aux élèves les plus fragiles, les plus en difficulté, ceux qui sont en échec. Et une de mes surprises aussi au cours de ces deux journées, c'est que finalement on a très peu parlé d'élèves. Il y aurait des analyses langagières, linguistiques à faire, hein, sur les termes que l'on a utilisés, parce que c'est pas innocent du tout. Alors c'est vrai que c'était pas du tout l'objectif, ni la finalité, mais c'est quand même bien la finalité de la formation des enseignants, hein. Il me semble. Bon, c'est bien de faire en sorte. Il me semble, voilà, il me semble qu'on est là pour que les enseignants puissent aider tous les élèves, hein, et même les plus en difficulté. Alors, bon, quand je dis qu'on n'a pas du tout parlé d'élèves, j'exagère un peu. Quand on a parlé, à un moment à la table ronde hier, on a évoqué le rapport du HCE et les difficultés justement d'un nombre important d'élèves et de dire que c'était quelque chose qui risquait bien de retomber sur la formation et sur les IUFM. Mais bon, finalement, notre question là pendant deux jours, c'était quoi ? Il me semble que c'était bien comment former les enseignants et comment mieux les former pour qu'ils agissent mieux, pour qu'ils travaillent mieux. Alors j'avais préparé tout ça et puis voilà que ce matin, Françoise Lantôme, elle nous explique que l'introduction de la professionnalisation, ça s'est organisé autour d'une vision déficitaire du métier d'enseignant. Et j'ai dit ça y est, voilà, moi aussi je suis dans la vision déficitaire du métier d'enseignant. Et je suis prise à mon propre piège, presque, parce qu'en fait, c'est vrai que je me retrouve dans le camp des suspicieux, quoi. Alors que justement... Pour travailler au centre Alain Savary, je peux vous dire que les suspicieux, ils existent et ils sont très nombreux, ils parlent beaucoup, ils parlent fort sur cette question-là. Voilà. Hein, on entend énormément les dénonciations des enseignants qui seraient, comme a dit Françoise Lantôme ce matin, hein, complices ou aveugles. Et les dénonciations qui viennent de tous les côtés, aussi bien des enseignants eux-mêmes, des chercheurs, des institutionnels, des formateurs. On a toujours ce discours-là. Ça, il est vraiment extrêmement présent. Mais malgré tout, et bon, j'en parlais dans le couloir là avec Françoise et j'aimerais bien qu'on en discute aussi avec elle, parce que bien sûr qu'on peut s'interroger sur la volonté, les conséquences de la rationalisation du travail enseignant, mais en même temps, on peut bien se demander quand même comment rendre ce travail plus efficace ou plus juste, hein, puisqu'on sait bien qu'il profite pas de la même manière à tous les élèves, et que cette question n'est peut-être pas complètement déplacée, même si, bien sûr, il faut replacer les pratiques enseignantes et la formation des enseignants dans des contextes beaucoup plus grands, dans des systèmes beaucoup plus vastes, qui ont des, où il y a différents acteurs pour dans ce modèle de justice et d'efficacité de l'école. Hein. Mais bon, c'est quelque chose qui m'a interrogée et que j'avais envie de partager là un petit peu avec vous. Alors, hier et puis aujourd'hui, on a eu deux récits historiques, on va dire, qui n'étaient pas contradictoires, mais un petit peu divergents. Et que j'ai envie de résumer sous la formule du métier à la professionnalisation et retour. Bon, c'est simplificateur, hein, mais c'est un petit peu ce que j'ai entendu. Donc hier, Raymond Bourdoncle, qui a fait la généalogie de l'utilisation de ce terme, hein, qui a bien fait les distinctions linguistiques conceptuelles et qui a retracé le processus dans le contexte historique et politique, notamment la création des IUFM. Et aujourd'hui, Françoise Lantôme, qui a un peu déplacé la question, hein, en montrant comment la question du travail enseignant avait été, selon elle, donc, longuement et largement occultée, et que c'est seulement depuis les années 90 que les chercheurs s'intéressent à cette question. Alors, on a vu s'amorcer un débat entre Françoise Lantôme et Raymond Bourdoncle ce matin, et c'était extrêmement intéressant. Bon, ce serait aussi à poursuivre. Lui disant qu'on ne pouvait pas complètement associer la question de la professionnalité à cette vision déficitaire, hein, d'abord d'un point de vue historique, puisque il a souligné que la question de la professionnalisation s'inscrivait aussi dans un contexte de revalorisation, et ça je voudrais en reparler un tout petit peu après. Et puis d'un point de vue sociologique, d'une critique d'une sociologie de la sociologie, là je ne rentrerai pas dans ces détails parce que je maîtrise pas suffisamment les références. Même sur la question de la professionnalité, c'était extrêmement intéressant, puisque le terme qui a été aussi introduit ce matin, il y avait un accord entre deux sur l'origine ouvrière et de lutte sociale de l'utilisation de ce terme, mais Raymond Bourdoncle a bien redit comment ce terme a été récupéré aussi par le patronat pour l'opposer à la notion de qualification. Donc on voit bien quand même que c'est pas si simple et que les choses ne s'opposent pas terme à terme, et qu'on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement complexe et difficile à démêler. Et donc on voit bien, c'est pour ça aussi qu'on a été beaucoup, beaucoup sur des mots et sur des définitions et sur tout un champ lexical, ce que je disais tout à l'heure, et qu'il faudrait vraiment approfondir. Hein. On a parlé donc de métier, de profession, de travail, d'activité, de professionnalisation, de professionnalité, de qualification, de validation, de certification, de masterisation, et j'en passe. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de mots. Alors, si on reprend la question du métier, donc, hein, tout ce que nous a dit Raymond, voilà, moi je reprendrai pas dans le détail, mais quand même, il a bien, dès le début, et ça c'est revenu aussi plusieurs fois, il a dit que l'acquisition par expérience était mystérieuse. Et il y a eu ce terme de mystérieux, et plusieurs fois, il y a eu l'idée que le travail était énigmatique. Et que ça restait une énigme. Et je crois que presque tous les conférenciers ont utilisé ce terme. Et ça m'a frappé, sans doute parce que ça me plaisait aussi, hein, je l'ai entendu. La profession, donc les métiers qui étaient incorporés les savoirs des métiers qui étaient incorporés et qui du coup ne circulaient que si les corps circulaient. Alors que la profession supposait donc un acte d'explicitation une rationalisation discursive, et on y est beaucoup revenu aujourd'hui quand on a parlé de l'activité aussi. Alors lui, il avait retenu dans son exposé d'hier matin trois aspects essentiels du processus de professionnalisation. La professionnalisation de la formation, la professionnalisation de la personne et la professionnalisation des savoirs. Et j'ai repris ces grands points comme fil rouge, c'est un petit peu le plan que j'ai pris là. Donc la professionnalisation de la formation, qui se fait, nous dit-il, à travers des dispositifs de recrutement et de sélection, à travers des dispositifs de formation et à travers des références de la formation. Et alors, on peut s'interroger, bien sûr, sur les enjeux de cette professionnalisation de la formation. Est-ce qu'il s'agit d'améliorer la qualité de la formation et la professionnalité des stagiaires? Et alors, comment? Ou est-ce qu'il s'agit de revaloriser la profession? Et là, on retrouve le débat que j'ai évoqué tout à l'heure. Alors, bien sûr, ces deux objectifs sont peut-être pas incompatibles, hein, mais... on a bien vu, quand on nous a présenté les masters hier, qu'il y avait des tensions qui étaient... Enfin, moi, je les ai senties de manière assez nette dans la présentation de ces quatre masters, c'était des diplômes universitaires, mais en même temps, la distinction master recherche et master professionnel tendait à s'estomper, nous a-t-on dit. Qu'est-ce que ça pouvait signifier en termes de professionnalisation pour les stagiaires? On s'est d'ailleurs beaucoup interrogé, hein. On a parlé de gain de professionnalité. Je ne sais pas si on a bien répondu à la question, hein. Moi, en tout cas, j'en suis pas tout à fait sûre. On a vu aussi, quand Gérard Baillat nous a présenté le dispositif d'intégration des UFM à l'université, comment... l'accès au niveau master, qui était donc à la fois une revalorisation de la profession, pouvait être aussi une menace pour le statut de fonctionnaire d'État, hein, et que cela pouvait aussi interroger la place des concours. On a vu sur les enjeux de la masterisation les masters qui existaient actuellement étaient assez peu nombreux et qui n'étaient ouverts qu'à un petit nombre d'étudiants. Qu'ils étaient tantôt orientés vers la formation initiale, tantôt vers la formation continue. Et on s'est interrogé, pour ceux qui concernent la formation initiale, que se passera-t-il quand ils vont concerner l'ensemble des étudiants, hein, des enseignants? Est-ce que l'encadrement, le suivi, l'accompagnement pourront être les mêmes? Sans doute pas, mais... Peut-être qu'il suffira d'ailleurs de suivre la formation à l'UFM pour obtenir un master. Mais on ne s'est pas beaucoup attardé d'ailleurs justement sur ces enjeux de certification, de validation, de qualification. Enfin bon, je ne sais pas quels sont les termes qu'il faudrait employer. Mais il y a des enjeux là derrière qui sont extrêmement, complexes, hein, et qui seraient un petit peu à détricoter, quoi. Bon, plus largement, on s'est interrogé sur les objectifs de ces masters. Alors, est-ce qu'il s'agit d'améliorer les savoirs professionnels ou les savoirs universitaires et de préparer ou d'initier à la recherche? Et alors, quel sens l'initiation à la recherche peut avoir pour l'activité enseignante? Pour reparler des élèves en difficulté, hein, est-ce qu'être initié à la recherche, ça permet de mieux aider ces élèves? Comment? À quelles conditions? Alors, on voit bien que c'est des questions très vives, que ça interroge tout à fait les liens entre les apports universitaires et les apports professionnels. Hier, Jean-Claude Salaberry a parlé de couture entre les savoirs de la recherche et les savoirs professionnels. J'étais frappée par ce thème. Ce matin, on a eu une table ronde qui s'est attardée vraiment sur cette question des relations entre recherche et formation dans les UFM et puis dans d'autres institutions. Et on a bien vu la diversité des points de vue. Et bon, c'était trois points de vue individuels, on va dire, mais qu'il n'y avait pas d'accord ni sur les types de recherche qui pouvaient être utilisés, sans doute justement parce que cette typologie, il y a des écarts énormes entre les différentes formes de recherche, entre la recherche fondamentale dans les sciences dures, entre la recherche en didactique, la recherche sur les ressources numériques, et ce sont les seules qui ont été évoquées ce matin, mais il y a bien d'autres champs de recherche. Il n'y avait pas d'accord non plus sur les modalités de passage entre les champs de recherche, les champs de la formation, même si on a, nous a parlé d'expériences qui étaient plutôt concluantes. Donc, il faut à repenser aussi la question des espaces, des temps de rencontre entre les formateurs et les chercheurs, les outils conceptuels, méthodologiques, etc. Bon, pour revenir au master, on a aussi parlé de la cohérence entre les différents modules de formation. Et surtout, on peut parler justement la question des intervenants dans les masters. Est-ce que ce sont des formateurs ? Est-ce que ce sont des enseignants-chercheurs ? Est-ce que ce sont des professionnels ? Quels professionnels ? De quelle profession ? Et on peut s'interroger sur les relations entre ces différents intervenants. Est-ce qu'il y a des hiérarchies de statut, de légitimité ? Ça a été dit hier, ça a été encore évoqué aujourd'hui. Donc, entre les connaissances fondamentales et les savoirs professionnels, il y a des logiques différentes, il y a des statuts épistémologiques différents. Est-ce qu'on peut les faire exister ? Comment ? À quelles conditions ? Je crois que les questions restent ouvertes. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas du tout résolues, mais on a encore beaucoup de travail à faire. Surtout, je pense qu'il ne faut pas oublier que ces logiques sont incluses dans des rapports de force, dans les institutions, dans les représentations, dans les contraintes budgétaires, dans les intérêts professionnels des uns et des autres. Et donc, il y a à resituer, me semble-t-il, toutes ces questions dans ces ensembles-là. Alors, j'essaie de pas trop, je fonce. Hein. La question de la professionnalisation de la personne. J'ai trouvé ça aussi extrêmement intéressant et Bourdoncle nous a bien reparlé du double processus, à la fois des savoir-faire professionnels en situation et des processus de construction identitaire et de la socialisation professionnelle en termes de profession de foi. Hein, il nous a rappelé le sens étymologique religieux de cela. Donc moi, quand on a parlé de professionnalisation de la personne, j'ai tout de suite pensé aux enseignants débutants. Et c'est pareil, je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé finalement. Hein. On est resté dans notre monde à nous, de formateurs, d'organisateurs de formation, mais assez peu finalement des enseignants débutants. Donc les enseignants débutants, peut-être pas oublier que effectivement ils sont entre deux identités, hein, celle d'étudiants et celle de professionnels. Ils sont stressés, ils sont angoissés, ils ont du mal à gérer leur temps, à gérer leur énergie, ils sont en surcharge cognitive, comme on dit. Et souvent, ils n'ont pas le sentiment de maîtriser les gestes élémentaires du métier. Et c'est vrai que ce sont des choses, il me semble, qu'on a tendance parfois à oublier, même si on en a bien reparlé hier en reparlant du référentiel de compétences, en disant que c'était un référentiel de métier et pas un référentiel de formation. Mais ne pas oublier qu'il y a une grande différence entre un enseignant débutant et puis un enseignant expert ou expérimenté. Alors pour ces enseignants débutants, justement, c'est quoi les enjeux de la professionnalisation ? C'est peut-être effectivement la maîtrise des gestes élémentaires du métier, cette maîtrise qui permet ensuite, je pense, de mieux faire face aux autres problèmes, un petit peu comme quand on apprend à conduire. Hein. Au début, on ne peut rien faire d'autre que passer les vitesses, embrayer, etc. Et puis après, c'est automatique. On a ces gestes-là et on peut faire d'autres choses. On peut écouter la radio, on peut discuter avec son voisin, puis on peut s'intéresser plus à la route aussi. Et là, j'avais envie de reprendre ce que j'ai entendu de Guillaume Serre il n'y a pas très longtemps, qui vient de faire une thèse sur le travail enseignant. Et lui dit que se former, c'est éprouver successivement et simultanément de multiples préoccupations cruciales, contradictoires, et qui empêchent la transformation. Que c'est accepter de modifier avec prudence le début de stabilité de son activité professionnelle. C'est créer des liens de signification entre des situations totalement éparses, totalement qui ont des légitimités diverses, qui sont très éclatées. Et c'est se situer dans une communauté de pratique. Donc, on voit bien que ça, ce sont des enjeux pour la professionnalisation des stagiaires qui sont, me semble-t-il, important. Alors, il y a d'autres personnes, effectivement, qui sont concernées par les processus de professionnalisation. Il y a les élèves, hein, j'en ai un petit peu parlé. Et puis, il y a les formateurs eux-mêmes. Et c'est vrai qu'on n'en a pas énormément parlé, des formateurs. On a parlé de leur hétérogénéité, en disant que c'était une difficulté, mais aussi une richesse, entre ceux qui sont à temps plein, ceux qui sont à temps partiel, ceux qui débutent, ceux qu'on a vu d'autres, qu'on fait déjà toutes les réformes, ceux qui ont été formés, ceux qui l'ont pas été, ceux qui organisent, ceux qui planifient la formation, ceux qui la mettent en œuvre. Est-ce qu'on peut parler d'une même profession pour les formateurs? Est-ce qu'on peut parler d'un même métier, d'une même activité? J'en sais rien. Et en fait, ces questions qui sont fortes pour les formateurs d'enseignants, elles existent pour les formateurs d'adultes en général. Il y a quelqu'un qui vient de faire justement une thèse sur l'identité professionnelle des formateurs d'adultes. Et lui, il affirme que c'est un groupe professionnel important, parce que ceux qui font de la formation d'adultes sont extrêmement nombreux dans les statistiques INSEE, mais que ce n'est pas une profession. Hein. C'est pas une profession parce que il y a un éclatement des conditions d'exercice, il y a des positions inégales, il y a donc l'hétérogénéité et il n'y a pas un sentiment d'identité professionnelle. Et lui, il reprenait les termes de Lise de Mailly en disant que le métier de formateur est un métier poreux. Et j'ai trouvé cette expression intéressante pour nous aussi. Et donc, finalement, il y a vraiment un paradoxe sur cette question des formateurs d'adultes et du coup, des formateurs d'enseignants aussi, dont le métier est finalement très flou, très fragile et très faiblement constitué. Et ça pose effectivement des tas de questions sur la professionnalisation de la formation. Et on voit bien aussi, ça a été posé également au niveau des masters dont on nous a parlé hier. Hein. De quel côté étaient les formateurs qui intervenaient dans ces masters? Est-ce qu'ils étaient plutôt du côté de la recherche, du côté de la pratique professionnelle? Et on en était arrivé à poser la question qui revient très souvent, mais c'est pareil, qui est encore ouverte. Faut-il être un praticien expert pour être un formateur de praticiens? Et donc, ça m'amène à mon troisième et mon dernier point sur la professionnalisation des savoirs. Donc, on voit bien, Bourdoncq nous l'a redit hier, que les savoirs, pour être des savoirs professionnels, hein, doivent être relativement abstraits et organisés en système, doivent être applicables à des situations concrètes, crédibles quant à leur efficacité, créés, organisés, transmis par la profession elle-même, est suffisamment sophistiqué pour ne pas être accessible à l'homme ordinaire. J'ai trouvé
ça. C'est le seul point sur lequel on est sûr qu'on a gagné.
Non, moi je ne suis pas sûre qu'on ait gagné, justement.
Sur ce dernier point?
Non, et justement, toutes les questions, les discussions qu'il y a entre des enseignants et des parents d'élèves, ça se situe là. En disant, moi je connais mon métier de manière professionnelle et vous ne le connaissez pas, mais il n'y a pas d'accord. Sinon, il n'y aurait pas les tensions qu'il y a entre les parents d'élèves et les enseignants. D'accord. Ça, je crois. Enfin bon, on pourrait en redébattre.
On peut le voir comme ça, tu as raison.
Mm-hmm. Donc, l'idée qu'il y a deux types de savoirs, hein, les savoirs des disciplines enseignées ou des disciplines universitaires, et qui donc ne suffisent pas, parce qu'ils ne sont pas créés ni arbitrés par des professionnels, et qu'ils sont accessibles à l'homme ordinaire, et les savoirs pour enseigner qui reposent sur les professionnels. Donc ces savoirs professionnels, maintenant à l'IUFM, donc c'est un référentiel de compétences, on a vu les 10 compétences que tout le monde connaît par cœur, qui ont été définies par l'employeur. Alors, hier on n'a pas reparler justement, enfin vu les enjeux de cette notion de compétence. On en a reparlé ce matin et Philippe Astier a bien redonné des définitions de la compétence et justement des difficultés que ça amène aussi, puisque la compétence, nous a-t-il dit, c'est une organisation conceptuelle, hein, c'est un ensemble de concepts et de raisonnements construits qui permettent d'engager l'action. Et il a bien soulevé la question des référentiels de compétences, bien sûr qui était une avancée, mais dont on devait aussi se méfier dans le sens où il déconstruisait le métier et qu'il fallait bien le reconstruire pour pouvoir être dans cette dynamique-là. Donc, on a eu ce matin des exposés extrêmement riches sur ces notions de travail, de métier, donc d'activité, d'action, Bon, je ne vais pas reprendre tout ça, ce n'est pas le moment. C'est Françoise Lanthomme, donc, qui elle aussi a reparlé hein, d'énigmes du travail et qui a bien resitué ce que c'était que le travail, cette dimension singulière et sociale, cette dimension située, le fait que ça excédait le réaliser, la question des normes, le développement, et puis le fait que l'activité était adressée et donc l'importance du langage. On voit bien, Philippe Astier aussi donc a repris toutes ces questions de l'analyse du travail, les concepts, les méthodes qui étaient utilisées, en nous montrant que c'était issu donc d'une longue tradition d'analyse du travail, mais on voit bien que pour nous, dans notre champ de l'éducation et de la formation des enseignants, c'est plutôt nouveau. C'est quelque chose qu'il faut qu'on intègre dans nos systèmes de pensée et d'analyse. Donc, il ne faut pas tout développer, mais je voudrais aborder une question justement maintenant, c'est comment on peut utiliser ces approches de l'analyse du travail, de l'analyse de l'activité en formation. Alors, Philippe Astier nous a dit que c'était la didactique professionnelle, puisque la didactique professionnelle, j'ai repris sa définition, mais je ne la retrouve plus. C'est pas grave. C'était justement l'analyse du travail en vue de la formation.
L'analyse du travail en vue de la formation, oui.
Et donc,
la définition de Pastré.
Oui, voilà, c'est la définition qu'il a redite ce matin. Et donc, il nous a donné quelques principes et qui peuvent certainement aussi éclairer le travail en IUFM, hein, de renforcer les effets formateurs du travail, les effets de l'expérience. Et on a vu, il a beaucoup abordé la question de l'alternance, hein, on en a reparlé.
Des stages, oui.
Construire des situations didactiques pour apprendre, hein, recréer des situations problèmes où on peut davantage prendre le temps de se tromper, de revenir en arrière, etc. Et puis donc de construire ces dispositifs de développement en alternance. Juste pour terminer, je voudrais faire référence justement aux travaux des équipes avec qui le Centre Alain Savary travaille. Alors mes petits camarades vont se moquer de moi, ils vont dire je fais encore ma pub. Mais on a amorcé justement avec plusieurs équipes un travail sur cette question-là, vraiment, de comment on utilise l'analyse de l'activité pour construire des dispositifs de formation, en particulier concernant la formation des enseignants débutants en réseau Ambition Réussite et des professeurs référents dans les réseaux Ambition Réussite. Donc on travaille avec Luc Ria, avec Patrick Rayot, Christine Félix, Frédéric Soja, Dominique Bucheton, etc. Et donc vraiment, il s'agit de partir du réel du métier pour construire des dispositifs de formation qui sont indexés à l'analyse de l'activité. Alors c'est un travail en cours, à suivre, mais finalement qui s'inscrit bien dans toutes ces réflexions. Voilà.